Toute une vie, Golda Meir, la grand-mère d'Israël. Un documentaire d'Élodie Maillot, réalisé par David Jakubowiez.
Anybody that doesn't have dreams of great things can't do anything. The first thing you have to dream, and to have the courage for dreaming something that seems impossible.
Il faut rêver avant tout, et même avoir le courage de rêver de choses impossibles.
I'm looking for Golda Meir.
Toute une vie, Golda Meir.
Parcelle des dignitaires de la nation.
Si c'est pas ici à droite, alors on pourra regarder le plan, mais à mon avis, ça doit être par là. C'est la première fois que j'y vais. Hein. Je découvre comme vous. Comme tout le monde, j'ai eu plusieurs occasions de venir ici, mais la tombe de Golda Meir, je ne la connais pas.
Et vous, Pierre Lursa, on peut dire que vous fréquentez depuis peu la vie de Golda Meir. En tout cas, sa biographie.
Oui. Je me suis intéressé à elle, c'est assez récent. Ça fait, je crois, un an ou deux, quand j'ai trouvé ce petit livre que j'ai décidé de traduire. Son autobiographie de jeunesse. Mais avant, j'avais une sympathie pour elle, mais pas plus que ça. Elle est arrivée en Israël à peu près à la même époque que mes grands-parents maternels. Et donc, ça crée aussi un lien. Quand on dit la grand-mère d'Israël, je peux m'identifier à cette expression. Mais ceci dit, je crois qu'elle n'est pas seulement la grand-mère d'Israël. Elle est... Il y a un petit côté péjoratif quand même dans cette expression.
Alors, on a devant nous une forêt de sapins et au loin, les collines de Jérusalem.
Eh bien, on est sur le mont Herzl, qui est à la fois l'endroit où sont enterrés les grands dirigeants à la fois du mouvement sioniste et de l'État d'Israël. Et puis, il y a aussi de l'autre côté le cimetière militaire. C'est des jeunes soldats de 18-20 ans qui sont enterrés. Ici, c'est des dirigeants qui ont une longue vie derrière eux. Il y a une cérémonie, apparemment. Et ben voilà, on est arrivé devant la tombe de Golda. Une simple pierre tombale gris-noir et rien de plus. Et je ne pense pas qu'elle ait jamais pensé à la postérité, en tout cas pas de la manière dont a pu le faire Ben Gurion. Voir cette tombe solitaire à côté des autres dirigeants qui sont tous enterrés à côté de leur femme, ça dit quelque chose d'elle aussi.
C'est la seule femme politique de tout ce cimetière.
Oui, c'est pas la seule femme politique d'Israël, mais c'est la seule qui soit arrivée aux plus hauts échelons et quelque part elle reste unique. Golda Meir, entre parenthèses Meyerson, fille de Blouma et de Moshe Mabovitz, née en 1898, décédée en 1978. Premier ministre entre 69 et 74, ministre des Affaires étrangères 56-66, ministre du Travail et membre de la première jusqu'à la 8e Knesset. Elle a eu une longue carrière parlementaire.
Les gens ne s'attardent pas beaucoup sur sa tombe. On va voir peut-être les prochains.
Ben oui, elle fait partie de ces dirigeants qui sont un peu devenus comme des cartes postales. Tout le monde connaît leur nom et ah ben voilà, eux, ils s'arrêtent un petit peu plus longtemps.
Comment vous êtes, Jala?
I don't really know who's Golda Meir.
No? Where are you from?
From Ukraine.
She was born in Ukraine.
Yes.
Elle est née en Ukraine.
Who was she? I heard a lot of Golda Meir. I don't know who she was.
אחי, אתה לא יודע מי זאת גולדה מאיר?
Évoquer Golda Meir, c'est convoquer l'histoire d'Israël et ses rêves d'une société juste et égalitaire. Mais qui est Golda Meir? Golda Meir qui traverse un film de Godard, Golda Meir en visite aux soldats, son petit sac en cuir à la main, Golda Meir en meeting, Golda Meir au Nigeria, Golda avec les femmes au kibbutz, Golda dont la vie s'adapte en roman ou au cinéma, interprété par Ingrid Bergman ou Hélène Mirren.
If I am not for myself, then who will be for me?
Alors, Golda Meir a-t-elle une place dans le cœur des Israéliens qui réclament la démocratie?
Qu'est-ce que vous pensez quand je vous dis Golda Meir? Vous avez quelle image?
She's the worst prime minister we ever had.
Ah, c'est la pire première ministre qu'on a jamais eue.
Golda Meir. Golda Meir. Why? Nothing to know. It's not important. No.
Ah, Golda Meir, c'est pas important.
Dans votre mémoire, quand je vous dis Golda Meir, vous me dites quoi?
Une personne qui a raté complètement son époque, qui n'a pas vu, aveuglée et arrogante. Elle a dit quel peuple palestinien, ça n'existait pas, elle a dit ça. C'était une des choses, je pense, que la plupart des Israéliens se souviennent le plus.
Les Palestiniens, they don't exist. À partir de ce moment-là, je n'ai pas tellement aimé cette femme. À partir de ça, la guerre de Kippour, elle a fait des fautes.
Est-ce qu'on peut la réduire qu'à la guerre de Kippour?
Oui, moi je peux. Mon mari était là à la guerre, j'ai plein de copains qui étaient à la guerre. C'était un grand trauma. Alors on ne peut pas dire on aime Golda aujourd'hui.
Je sais qu'ici elle est très très mal vue et que malgré tout elle était sur les billets, donc dans la poche des gens. Mais aujourd'hui le billet a disparu.
Oui, c'est ça, le billet a disparu, c'est ça.
Pourquoi il a disparu le billet?
Aujourd'hui, mais qui tient le billet aujourd'hui, ma belle? Il n'y a plus de billets. On paye par l'internet. Alors elle, avec le billet, a disparu. Et alors? T'as pas dit autant. Elle veut la vivre avec un billet parce qu'elle a la corona.
Dans le judaïsme, on dit toujours que le prénom, c'est très important, que ça a une influence sur la destinée des gens. Golda, c'était un prénom yiddish, et Golda, ça veut dire, c'est la racine du mot gold, ça veut dire en or, quelqu'un en or.
C'est pas rien.
Oui, oui, bien sûr, oui. Elle porte le prénom de sa grand-mère Golda, grand-mère maternelle, une femme très imposante, impressionnante. Elle a une façon assez modeste de parler de sa famille parce qu'elle dit en fait toutes les qualités, je les ai héritées de un tel, de ma grand-mère, de mon père, de ma mère. Donc il y a une certaine modestie chez elle qui n'est pas contradictoire d'ailleurs avec le fait qu'elle avait aussi un caractère très déterminé, qu'elle était très obstinée.
Golda, elle vient d'un milieu très humble. Sa mère ne travaille pas, elle s'occupe de la famille. Son père est menuisier. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas beaucoup de nourriture. Et cette histoire de nourriture, ça va poursuivre Golda pratiquement toute sa vie. Et c'est quelque chose qui manquait à toute la famille pendant beaucoup d'années. Aucune femme politique du XXe siècle, si on parle de, par exemple, Margaret Thatcher ou Indira Gandhi, les femmes premières ministres, n'ont connu cette misère terrifiante qu'a connue Golda Meir. Et ça, en fait, ça commence avec son enfance à Kiev. L'Ukraine était le lieu de l'antisémitisme presque officiel, où les pogroms étaient, je dirais pas quotidien, mais c'était très fréquent. Et donc Golda, quand elle avait 4 ans, elle a vécu le premier pogrom. Elle a entendu des cris et elle a vu ses parents barricader la maison. On lui a expliqué que la seule raison, c'est parce qu'ils étaient juifs et les Ukrainiens n'aimaient pas les juifs. Et après, il raconte que l'impression de ce pogrom, ou le souvenir de ce pogrom et l'injustice profonde qu'il a ressentie, ça a commencé à former son caractère.
Et alors, Yana Grinspoon, comment vous décririez le regard de Golda Meir ici sur cette photo à 8 ans?
C'est un regard triste. Il y avait en russe une expression qu'elle connaissait peut-être pas, mais qui existe aussi en yiddish. On disait que dans ses yeux, on voit toute la tristesse du peuple juif. Ça, on le disait souvent. Вся печаль еврейского народа. Et dans beaucoup de photos, plus tard, on verra les traits durs, on verra la détermination, mais on verra cette tristesse qui l'accompagne toujours. Et c'est la tristesse de la mémoire juive, je dirais ça de cette manière. Il faut bien voir comment vivaient les juifs à l'époque en Russie. C'était la fin du 19e siècle. Les juifs vivaient dans des ghettos, ils n'avaient pas de droits sociaux. Ils n'avaient pas la possibilité d'étudier dans les universités, ils n'avaient pas de droits. Et donc, il y a eu les Poalei Tzion, les travailleurs sionistes, qui voulaient de la justice sociale pour tous, mais surtout aussi pour les juifs. Golda, et puis tout le milieu qu'elle fréquente, c'est un milieu de travailleurs durs. C'est un milieu qui est fortement marqué par les idées de Tolstoï à l'époque en Russie.
Et donc, elle, en tant que petite fille, elle raconte comme elle était fascinée par sa grande sœur, qui était une militante. Militante sioniste-socialiste aussi, qui faisait des choses incroyables, dangereuses d'ailleurs, parce que évidemment dans l'Empire tsariste, une activité militante socialiste n'était pas du tout bien vue. Elle risquait de se faire arrêter, elle risquait même sa vie. Et donc c'était un modèle pour Golda. Elle a un petit peu marché sur sa trace.
elle est révoltée et elle prend conscience très vite du fait que
Claude-Catherine Kejmel.
Il faut se battre et se défendre soi-même et ne pas compter sur les autres. Ça, c'est très très important. Jusqu'au jour où le père décide de partir pour l'Amérique. La mère veut partir aussi avec ses enfants, mais il dit que c'est trop tôt, qu'il faut qu'il aille découvrir ce pays, s'installer, et qu'ensuite, elle viendra.
Ui, 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 bat, mein Städtele bat, mein Heimele dort, wo ich hab meine kindische Jahren verbracht.
Et finalement, c'est la mère qui décide, maintenant il y en a assez, il faut partir. La mère va prendre ses enfants sous le bras, ils vont traverser l'Europe, ce qui n'est pas une chose facile. Elle emprunte un faux passeport, enfin, la mère prend des risques. La mère est une personnalité assez forte. Et elle, Golda, qui est une petite fille, elle arrive, elle a moins de 10 ans en Amérique. Et elle, elle va aller en classe. Et là, elle va aussi démontrer son intérêt pour les autres. C'est une combattante dès l'enfance.
Alors, quand elle arrive aux États-Unis, à Milwaukee, Golda Meir se retrouve effectivement dans une école publique. Et là, elle a déjà ce désir de justice sociale. Elle se bat pour que les élèves puissent avoir tous accès à des livres, par exemple.
Oui, parce qu'elle est choquée que les enfants les plus pauvres ne puissent avoir des livres. Donc, elle va organiser une grande manifestation où elle va recueillir de l'argent pour que tous les enfants aient les mêmes livres.
Très jeune.
Très jeune, elle récolte de l'argent pour les autres. Et ça, plus tard, elle va être celle qui va récupérer le plus d'argent pour Israël, enfin pour la construction de ce qui deviendra l'État d'Israël.
Pourquoi est-ce que le socialisme était si important pour Golda Meir? Pourquoi cette idée-là traverse autant sa vie?
Golda vient d'une famille traditionnelle et dans toutes les fêtes juives, en règle générale, on met toujours un plat sur la table pour quelqu'un qui va venir, s'il a besoin de venir, pour être nourri comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, dans le judaïsme même, que tout le monde doit avoir quelque chose pour vivre. C'est le concept de justice. Tzedaka, ça vient de la racine juive tzedek, et ça veut dire juste. Et l'idée de la tzedaka permet de comprendre cette adhésion aux idées socialistes tels que Golda et puis tous les fondateurs d'Israël éprouvent. Ce n'est pas la charité chrétienne dont il s'agit. La charité, c'est vraiment l'idée qu'il faut avoir de l'empathie pour ceux qui souffrent. Mais ce n'est pas la justice.
Ça n'a pas toujours été très facile. Elle raconte cette anecdote qu'un jour, aux États-Unis, elle est militante, donc, et quand son père lui dit « Où tu vas ?» et « il y a un meeting, je vais parler », il dit « Quoi, une fille Mabovitz qui va parler en public ?» Mais ça ne se fait pas du tout.
Mabovitz, c'était son nom.
C'était son nom de jeune fille. Donc, une fille Mabovitz ne peut pas parler dans la rue. Et bien entendu, elle ne l'a pas écoutée. Et elle était convaincue qu'il allait venir l'interrompre. Et finalement, il a dit que c'était un très beau discours. Il était impressionné. Donc l'histoire se termine bien. C'est peut-être là qu'elle a découvert ses talents d'oratrice ou de son charisme.
Golda Meir, très jeune, désobéit, quitte ses parents pour pouvoir étudier.
Elle s'échappe même par la fenêtre, avec une corde qu'elle fait avec les draps de son lit, pour aller rejoindre sa sœur, Shana, qui est effectivement un exemple depuis son enfance.
Elle a quel âge à cette époque?
Elle a 15 ans, 16 ans.
Maintenant que j'avais terminé le premier cycle, je parlais bien l'anglais, sans accent, et j'étais devenue ce que les voisins appelaient une « derwachsene Scheinmädel », une belle grande fille en yiddish. Selon mes parents, il était temps pour moi de songer au mariage. Quand j'insistais pour apprendre un métier, mon père opinait. « Ça ne paye pas d'être trop intelligente », m'avertissait-il. « Les hommes n'aiment pas les filles trop malines ». Comme ma sœur Shana avant moi, je cherchais par tous les moyens à faire changer d'idée mes parents. Je leur expliquais qu'à de nos jours, l'éducation est une chose capitale, même pour une femme mariée. et j'ajoutais en sanglotant que j'aimerais mieux mourir plutôt que passer ma vie courbée sur une machine à écrire dans un bureau crasseux. À Denver, Shana m'encourageait dans cette lutte.
Alors, à l'époque où elle était à Denver, elle va rencontrer son futur mari, Meyerson. Maurice Meyerson, qui lui, beaucoup plus cultivé qu'elle, aime la musique, lit, qui s'intéresse aux choses de l'esprit, beaucoup plus que Golda. Mais il n'a aucune envie de partir pour la Palestine. Il lui resterait bien en Amérique, il pourrait se faire une vie. Mais Golda va l'entraîner. Et il est très amoureux de Golda, et finalement, il va la suivre. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que pourquoi ils sont allés en Palestine ? C'est qu'il y a eu la déclaration Balfour.
En 1917 ?
Où il est décidé qu'il y aura en terre de Palestine un foyer juif.
De quoi êtes-vous particulièrement fier ?
1921,
être venu ici en 1921. C'est la décision la plus intelligente que j'ai jamais prise.
Côte d'Abeillère, Archives France Culture, 1977.
I have very good friends.
Écoutez,
in Milwaukee.
J'ai des amis très chers à Milwaukee.
When I come to Milwaukee, I feel sorry for them.
Quand je vais les voir à Milwaukee,
they're very lovely people. I love them.
Ils me font de la peine.
But so what? So you have another car.
Qu'est-ce qu'ils attendent de la vie? Une voiture de plus?
Doesn't mean so much.
Avouez que c'est pas grand-chose.
On se rend pas compte que le mouvement d'émigration d'Europe centrale vers la Palestine, notamment à partir de 1917, c'est-à-dire la déclaration Balfour, il était motivé énormément par des jeunes qui échappaient à leurs parents.
Selim Nassib.
C'était un vrai mouvement de... Ça, une chose de libération, à un niveau très personnel. C'est pas juste politique.
Mais on y va pour travailler la terre. Avec aussi des visées communautaires et égalitaires aussi.
On y va parce qu'on veut fonder, comme disait Ben Yehuda, on veut fonder une langue maternelle. L'utopie est très très puissante. Et évidemment, elle ne regarde pas les dégâts qu'elle fait en arrivant. C'est violent et c'est aveugle. Les Arabes palestiniens, c'est des fantômes, c'est des gens qui ne devraient pas être là.
Golda, quand elle vient en Palestine, elle postule avec son mari pour un kibboutz. Un kibboutz, c'est une création, c'est-à-dire que ce sont des fermes collectives où il n'y a pas de propriété. Et donc elle postule pour ce kibboutz qui s'appelle Merhavia. Et les gens du kibboutz ne veulent pas l'accepter. Évidemment, les gens du kibboutz pensent que ce sont des Américains, donc les gens gâtés qui ne seront pas travaillés. Et Golda fait tout pour être acceptée par les gens du kibboutz, étant prête à leur prouver qu'elle sait travailler dur. Et travailler dur, ça veut dire biner les champs, construire les maisons, faire la garde, elle qui n'a jamais travaillé la terre avant. Et là, elle travaille la terre avec ses propres mains. C'était une experte de volaille, Golda Meir, dans son kibboutz. Ça, on ne peut dire à propos d'aucune femme qui aujourd'hui ou hier occupait des postes importants dans la vie de leur pays. Et Golda l'a fait, elle a tout fait comme les hommes, exactement de la même manière. Elle pense que les femmes du kibboutz étaient les premières vraies féministes. Donc elle était pour le féminisme constructif du fait et du travail. Et son objectif principal, je crois que c'est l'objectif de sa vie, c'était donner sa vie pour son peuple. Ça, c'était une des choses les plus importantes pour elle. Peut-être plus importante que ses enfants, que son mari, que sa vie, c'était son peuple. Et donc c'était une femme idéaliste qui a eu les forces d'incarner son idéal dans la vie.
Mais on voit entre les lignes peut-être qu'elle avait une certaine ambition et que peut-être que son mari n'était pas à la hauteur de ses ambitions à elle. Donc on lui prête aussi des liaisons avec d'autres personnes au sein du mouvement sioniste. Notamment, on lui prête une liaison avec Zalman Shazar, qui est devenu président d'Israël et qui avait été notamment d'ailleurs l'amant de la poétesse Rachel. Il y avait aussi d'ailleurs cette conception, moi ma propre mère me disait toujours que quand son père était arrivé en Palestine, c'était l'époque où on prenait l'amour libre. Et bien sûr, quand on parle d'utopie socialiste et de rejet de toutes sortes de règles de la vie bourgeoise, et ben, ça veut dire aussi une émancipation sur le plan des relations amoureuses, bien sûr.
Mais le kibboutz, c'est quand même un lieu où l'on déconstruit, comme on dirait aujourd'hui, le couple.
À l'époque, ouais. Plus maintenant. Ouais. Oui, mais c'était pas Woodstock,
Élie,
pas du tout.
Barnaby.
Mais c'est vrai que c'était, de la même manière que le kibboutz était une révolte contre l'organisation capitaliste, bourgeoise du travail, c'était une révolte contre l'organisation, la famille bourgeoise, et explicitement. Les enfants, à partir de l'âge de 3 ans, je ne sais plus, étaient élevés dans la maison des enfants, c'est-à-dire en commun. Ça crée des individus particuliers tout de même. Si vous rencontrez des gens qui ont passé toute leur vie, leur enfance, leur vie au kibbutz, ils vous diront que l'expérience n'a pas toujours été nécessairement très heureuse.
Pendant qu'elle est au kibbutz, la vie est dure. Et si dure que Maurice Meyerson, le mari de Golda, ne va pas résister à la vie du kibbutz. Et Golda devra y renoncer. Elle va se retrouver à Jérusalem, femme abandonnant ce qui est le but de sa vie, c'est-à-dire de militer et d'œuvrer pour la création de ce foyer, de cet état, je ne sais pas comment il faut l'appeler, en tous les cas. Et elle se retrouve une femme comme les autres, ce qu'elle n'est pas. Parce qu'elle se veut plutôt une femme d'action. Donc elle va vivre comme une mère de famille dans la pauvreté. Et ce qui va la sauver, c'est une rencontre avec un dénommé David Remetz, qui travaille à l'Istadrout. L'Istadrout, qui est le grand syndicat qui existe en Palestine à l'époque. Tout dépend presque de l'Istadrout, les écoles, la vie sociale. Et David Remetz va lui proposer un emploi à l'Istadrout. Et là, de commencer bientôt une carrière politique.
Remetz prend la main de Golda par-dessus la table. Elle baisse les yeux pour ne pas montrer ses larmes. « Oh David, je ne sais plus quoi faire, je n'en peux littéralement plus. Je ne suis pas monté en Eretz Israël pour ça. »
Un amant en Palestine, Selim Nassib.
« Écoute-moi, dit Remetz, tu dois comprendre que tu t'es imposé un effort surhumain, inhumain, pour te détourner de ta vocation. Ma méthode est simple, je mets l'affectif de côté pour évaluer froidement la difficulté et les moyens d'y répondre. Il faut que tu arrêtes ce gâchis. Tu te laisses aveugler par tes sentiments, tes enfants, ton mari, ta culpabilité. Tu possèdes un talent rare, Golda, précisément celui dont le mouvement sioniste a besoin. Voilà des semaines que je cherche désespérément une personne capable de se charger d'un certain travail.
Selim Nassib, est-ce que c'est un tournant dans la vie et dans la carrière de Golda Meir, cette rencontre avec David Remetz?
En tout cas, ça a été son marche-pied.
Oui, c'est quoi la leçon de David Remetz?
D'être dur, d'une certaine façon. Oui. On met l'affectif de côté, on se concentre sur l'objectif et on étudie froidement les moyens d'y parvenir. C'est la personne qui lui a fait quitter sa vie de famille imposée à Jérusalem et qui l'a fait rejoindre avec la plus grande joie la direction sioniste. Et elle laisse tout tomber... Et son mari et les deux enfants qu'elle a fait. À un moment, sa sœur lui dit « Mais enfin, tu te rends compte que tu as un surnom dans ce milieu ?» Elle dit « Mais c'est quoi le surnom ?» Il dit « Le matelas. » Et elle répond « Tu sais quoi, Shaina, je n'ai jamais été une nonne. » C'est pas que c'était honteux, c'était assumé. J'avais un ami qui me disait que son grand-père avait été l'amant de Golda Meir. Et il était très affirmatif, il disait que c'était le secret de la famille parce que son grand-père, qui était palestinien, avait couché avec l'ennemi, ce qui était très mal vu. Je n'ai pas du tout réussi à prouver que cette histoire était vraie, mais je peux raconter comment ça aurait été possible, cette impossibilité, que Golda Meir, qui va être la passionnaria du sionisme, ait pu tomber amoureuse d'un arabe, qu'une femme qui va devenir ce qu'elle va devenir ait pu avoir cette aventure. C'est toute l'histoire de ce roman. Pour Albert, avoir une maîtresse juive n'a rien d'extraordinaire en soi. Haïfa égorge d'histoires d'amour et de sexe entre juifs et arabes. Certains vivent même ensemble. C'est Golda qui est particulière. Son sionisme est un sacerdoce, une passion, le sel même de sa vie. Elle est venue en Palestine précisément pour cela. Être une juive parmi les juifs. S'il était découvert, son amant palestinien ferait voler en éclats le principe même de son engagement. Et puisque cette histoire ne peut exister, elle n'existe pas.
Le problème de Golda Meir, c'est comment faire pour faire venir en Palestine des Juifs qui sont persécutés en Europe, c'est très compliqué parce qu'ils ne peuvent pas partir. Et le président Roosevelt a l'idée de réunir une conférence à Évian en 38. Et Golda Meir y assiste en tant qu'observatrice. Et ce qui se passe, c'est qu'aucun pays ne veut recevoir des migrants juifs. Il y a un refus total. Et finalement, il y a un tout petit État qui est la République dominicaine qui va recevoir les juifs. Très peu, quelques centaines. Golda s'aperçoit qu'ils sont seuls au monde. Et ça, une fois encore, ça la persuade qu'il n'y a que les Juifs pour se défendre. Elle n'est pas pour le terroriste, par exemple, comme un certain nombre de Juifs. Elle est pour convaincre les Anglais qu'il faut recevoir des Juifs. Mais c'est très difficile. Elle facilite l'entrée des bateaux de migrants, clandestinement, autant qu'elle le peut.
Lors d'un de vos voyages aux États-Unis en 1948, vous avez réuni 50 millions de dollars. C'est une somme énorme. Comment l'avez-vous obtenu ?
Je les ai demandés et les Juifs me les ont donnés. Maintenant, ça n'a plus d'importance, je peux dire. Nous avons acheté nos armes aux Américains de façon tout à fait illégale. Et nous avons pu le faire parce que nous avons eu tout cet argent que j'ai obtenu tout simplement en disant la vérité aux Juifs américains.
You have to choose.
Vous avez le choix. Ou vous serez amené à faire une grande cérémonie à Madison Square Garden à la mémoire des Juifs morts en Palestine, ou vous organiserez une grande fête pour célébrer notre victoire et la fondation d'un État juif. Voilà. Ils ont décidé et ils m'ont donné l'argent.
Il était très ironique et il savait répondre dans les circonstances les plus difficiles. Je vous donne plusieurs exemples. Avant la veille de la guerre de l'indépendance, en 1947, il est allé voir le roi de la Transjordanie, Abdallah. Comment peut-elle venir le voir ? Elle doit s'habiller en arabe, en femme arabe. Et donc, elle met les robes traditionnelles arabes et elle va le voir en Jordanie à l'époque. Et le roi Abdallah lui dit... Mais pourquoi ne pouvez-vous pas attendre avec la fondation de votre État ? Et lui répond, vous savez, 2000 ans, ce n'est pas être pressé. Ça fait 2000 ans qu'on attend. Autre exemple, elle ne connaissait pas l'hébreu très très bien. Elle pouvait bien évidemment faire des discours en hébreu et représenter son pays, mais elle préférait l'anglais et le yiddish. Et un jour, un des hommes politiques qui l'accompagnait avait dit que Golda a uniquement 500 mots dans son vocabulaire. Elle ne connaît pas plus de mots. Et elle a cessé de lui dire bonjour. Très étonnée, il lui dit « Mais enfin, pourquoi vous ne me saluez pas ?» Elle dit « Je garde mes mots pour d'autres occasions parce que j'en ai peu. » Donc, elle savait toujours répondre à peu près à tout le monde. Donc, plus que son charme féminin, c'était son sens de l'humour, sa répartie et son sens de la formule qui enchantait les gens.
Mai 1948. À 4 heures de l'après-midi exactement, la cérémonie commença. Ben Gurion, en costume noir et cravate, se leva et frappa la table de son maillet. Selon le programme établi, ce devait être le signal pour que l'orchestre joue le Hatikvah, l'espoir. Mais il y a eu un accroc et on n'entendit rien. Alors spontanément, nous nous sommes tous levés pour chanter l'hymne national. Puis calmement, Ben Gurion dit « Je vais lire l'acte d'indépendance. » L'État d'Israël. Mes yeux étaient pleins de larmes et mes mains tremblaient. Nous avions réussi. Nous avions donné naissance à l'État juif et moi, Golda Mabovitch Meyerson, devenue Golda Meir, j'avais vécu cette journée.
Alors elle se retrouve finalement en 1948 à signer la déclaration d'indépendance avec que des hommes. Et à partir de ce moment-là, elle devient une femme politique importante en Israël. Et là, elle est envoyée à Moscou, comme ambassadrice, comme vous, Elie Bardavi.
Alors oui, elle est envoyée à Moscou, mais où rencontrer des juifs à Moscou, sinon à la synagogue? C'est le seul endroit où on a le droit d'être juif et n'est pas religieuse du tout. Et là, c'est une espèce de révolution parce que les juifs moscovites deviennent fous. C'est-à-dire, il y a une espèce de mouvement d'enthousiasme extraordinaire. Tout le monde veut la voir, veut la toucher, se presse à la synagogue où elle va.
Et elle est accueillie comme le Messie.
Et elle est accueillie comme le Messie, oui.
Et donc, c'est plus l'ambassadrice qu'on accueille, vous pensez, ou elle, par sa trajectoire?
C'est l'ambassadrice d'Israël qu'on accueille, évidemment. C'est l'incarnation de l'État d'Israël. Ça, j'en ai fait l'expérience moi-même quand j'étais ambassadeur à Paris, dans d'autres circonstances, évidemment. Il y a eu des scènes de ferveur étonnante.
Le corps diplomatique ne parlait que des ballets. Nous étions comme des imbéciles. On ne savait pas qui était la première ballerine et qui était le danseur le plus fameux parce que nous n'avions pas l'argent.
Loukada, secrétaire personnel de Golda Meir.
Nous ne connaissions rien du tout à la vie diplomatique. Comme nous étions extrêmement pauvres, enfin comme d'habitude, mais surtout à cette époque-là, il avait été décidé et accepté par tout le monde que nous ne serions pas payés et que des cigarettes nous seraient distribuées. Et nous avions tous accepté. Nous habitions à l'hôtel, à Moscou. Mais au bout de la première semaine, Madame Meir nous a tous appelés, une conférence générale, comme dans un kibboutz, et nous a dit, je dois vous annoncer quelque chose. À partir d'aujourd'hui, nous n'allons avoir qu'un repas par jour. Alors naturellement, on a accepté, on n'avait pas le choix non plus. L'idée de Madame Meir, c'était d'acheter en ville du pain, du saucisson, enfin des choses comme ça, que nous distribuons ensuite à chacun, selon les besoins de la famille.
Dans la plupart des familles ashkénazes en Russie, Golda Meir était une femme légende. Et c'était une femme à laquelle on pouvait s'identifier si on avait un caractère fort, si on avait des prédispositions pour la diplomatie ou si on savait très bien ce qu'on voulait dans la vie. Donc souvent, quand il y avait une fille dans ces familles juives ashkénazes qui savait ce qu'elle voulait, on disait à propos d'elle, c'est notre future Golda.
C'est une femme qui crée un État, qui participe à la création d'un État. Donc, elle est exemplaire de quelque chose. Elle est exemplaire parce que elle est obsédée par, effectivement, ce combat qu'elle mène et cette vision qu'elle a. Et elle est toujours droite dans ses bottes, même quand elle a tort. Et elle va être très efficace dans tout ce qu'elle va faire, comme ministre du Travail, où elle va organiser le travail, faire en sorte que les gens soient payés mieux. Quand elle visite les maisons qu'on est en train de bâtir, elle se préoccupe que la fenêtre soit à hauteur du regard des femmes. Elle est pragmatique. Elle dit elle-même que le problème des femmes ne l'intéresse pas. C'est pas primordial pour elle. Ce qui est primordial, c'est le sort de tous. Elle joue un rôle très prépondérant dans la création de la sécurité sociale. Et donc, comme ministre du Travail, elle est très efficace, très appréciée, etc. Plus tard, elle va devenir ministre des Affaires étrangères pendant très longtemps. Et elle va être une figure surtout en dehors d'Israël, aux Nations Unies, où elle joue un rôle extraordinaire. Elle a une puissance de voix et une manière de convaincre les gens. Elle subjugue ses auditoires.
Mr. President, we must express our opinion if all those who call for peace mean it, then an agreement will be reached, has to be reached.
Devant ces gens, elle se disait, comment les émouvoir? Et à un moment donné, elle dit, c'est beaucoup plus facile de faire pleurer les gens, de leur couper un souffle, que de les faire réfléchir. Je veux vous donner un exemple. Dans les années 60, le Conseil de sécurité appelle Golda pour qu'il réponde de l'obstination israélienne de garder Eichmann, qui était responsable de la solution finale. Et donc, elle répond au Conseil de sécurité et elle prononce un discours qui lui vient du cœur en racontant qui était Eichmann, combien de vies juifs. Il a exterminé combien de musiciens, combien de peintres, combien de menuisiers, combien d'écrivains il a exterminé. Et puis, elle tourne vers les gens du Conseil de sécurité et leur dit « Mais est-ce que c'est le rôle du Conseil de sécurité de s'occuper de l'obstination d'Israël ? Le fait qu'il soit en liberté, ne serait-ce pas dangereux pour la paix des nations et pour la paix des âmes jeunes ?» où il pourrait instiller son venin nazi. Et il a été jugé en Israël et Golda était présente à son jugement.
Golda Meir, elle représente Israël à la face du monde. Elle devient aussi, à un moment donné, présidente du Parti travailliste. Et surtout, elle va devenir Premier ministre très tardivement, à un âge certain, ayant un cancer qu'elle cache d'ailleurs depuis longtemps. Et quand elle est nommée Premier ministre, il y a ce geste formidable où elle est à la Knesset et où elle met ses mains dans les yeux quand on lui annonce qu'elle a la majorité et qu'elle est Premier ministre. Parce que pour elle, c'est un fardeau.
Je suis émue. Parce que c'est une responsabilité énorme. Mes collègues et moi-même, nous efforcerons de faire de notre mieux.
Je ferme juste pour le chien.
Hein. C'est un chien juif. Ah, il pleure tout le temps. Il n'est jamais content.
Claude Gartner.
Ici en Israël, je suis Yaakov Gartner. Dire que j'ai connu Golda Meir, même un cordonnier peut connaître Golda Meir dans la rue et dire j'ai connu Golda Meir. Mais moi, je l'ai connu Golda Meir au point de vue politique. J'ai commencé à travailler à Dan, qui dirigeait les autobus de Tel Aviv. Après un an, j'ai été élu comme secrétaire du comité des ouvriers qui était à Dan. Et en tant que secrétaire, j'avais déjà des rapports avec la Histadrut. La Histadrut, c'est comme en France aujourd'hui, ou la CGT, ou FO, Force Ouvrière, ou je ne sais pas, des trucs comme ça. Ici, c'était une organisation qui était très, très forte. Et un jour, on était dans une conférence, et il y avait là-bas Golda Meir qui a donné un discours. On approchait des élections. Et Golda Meir, qui était le chef aussi du parti, elle avait besoin des voix de Tel Aviv. Et c'est là que je l'ai rencontrée une fois dans le privé. Elle m'a demandé d'où vous êtes. Je lui ai raconté la Shoah, que je suis un ressortissant de la Shoah, que je suis arrivé en Israël en 51. Et là, elle m'a dit, vous avez des enfants aussi? Je dis, oui, j'ai deux filles. Elle était première ministre. Et il me dit, venez chez moi. Je vous invite avec les petites. Et en rentrant, j'ai remarqué qu'elle avait un tablier. Comme si elle était dans la cuisine. Et alors elle dit, qu'est-ce que vous voulez boire, mes petites? Orly, la petite, elle a dit, je veux du petel. Petel, c'est une sorte de fruit sucré qu'on les enfants aiment ici. Je sais pas, moi, un diabolo. Alors Golda Meir a dit, chez moi, il n'y a pas de petel. Il n'y a pas de boisson comme ça. Si vous voulez, il y a du thé. Ou de l'eau. C'était pas une femme très sucrée, très agréable. C'était une femme très simple. Et sans arrêt, elle fumait, elle fumait, elle fumait. Elle voyait pas beaucoup sa famille, je crois, cette femme. Elle était tout le temps dans des meetings politiques, tout le temps dirigeait le pays. C'est pas facile.
On dit que Golda Meir faisait beaucoup de réunions politiques dans sa cuisine.
Donc, ça faisait là-bas, il y avait une rencontre qui s'appelait Chavreinu. Chavreinu, ça veut dire les amis politiquement, les camarades, Chavreinu. Et je me rappelle que deux, trois fois, j'étais sollicité par Loukidar. Ça, c'était sa secrétaire personnelle. On pourrait dire que c'était le sosie de Golda Meir dans l'âme. La nuit, le jour, n'importe où tu la voyais, elle était là. Golda Meir était au bout de la table là-bas, il y avait tous les ministres, amis, camarades. Et moi, toujours, j'étais à côté de Yigal Alon. Il y avait Moshe Dayan de temps en temps qui venait. Tout était très simple, c'était pas la raison blanche.
Elle n'avait pas de serviteur, rien du tout. Elle servait même le thé. Ou des fois, elle pouvait dire, « Yigal, beau regard, Yigal, viens une seconde, aide-moi à mettre là-bas le sucre dessus. » Il l'emmenait avec elle, le thé, et ça continuait. Et des petits gâteaux insignifiants comme ça, deux, trois petits gâteaux sur une petite assiette comme ça. Pas de, je sais pas, des soupes ou de la viande. Les grands festins, ça n'existait pas. D'ailleurs, ils étaient tous comme ça à l'époque.
Elle était proche du peuple.
Elle était très socialiste.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire vivre très modestement. On avait envie de changer le monde, on avait envie de faire de beaucoup de choses.
C'est-à-dire que sur la scène internationale, et celle, je dirais, de l'internationale socialiste, elle pesait vraiment
oui,
très lourd. C'était quand même une
absolument,
grande figure.
Absolument, comme elle pèse encore aujourd'hui, vous savez, dans l'imaginaire européen-américain.
Élie Barnavi.
Et je me souviens d'une délégation de socialistes français. À l'époque, elle était secrétaire générale du parti.
Du Parti travailliste.
À l'époque, ça se faisait, vous savez, on allait... Les membres de l'international socialiste allaient les uns chez les autres pour les soutenir dans leur campagne électorale. Donc ils sont venus pour ça. Il y avait Mitterrand, il y avait Defferre, il y avait tout le monde. Ils étaient tous là. Il y avait Jospin, bien sûr. Il y avait Dayan, il y avait toute cette... Et ils sont tous allés voir Golda et cette rencontre avec quelque chose d'irréel, n'est-ce pas ? Vous voyez ces vieux chefs socialistes... et qui étaient devant elle comme des petits garçons, c'était un spectacle assez inoubliable. Defferre lui a dit, tu es belle Golda, avec des yeux béats d'admiration et d'amour. C'était une très forte personnalité. Et bien voilà, une forte personnalité doublée d'un esprit étriqué, ça peut faire des dégâts épouvantables.
Dans cet idéal socialiste sioniste, quelle était la place des Palestiniens?
Les Palestiniens, pour elle, je pense, ce n'était pas une ivre de la force et de tuer des Palestiniens. Mais elle avait, dans ce que je sais d'elle, qu'aujourd'hui, si elle était au pouvoir Golda Meir, je pense qu'elle aurait été Likoud, du parti de... Netanyahou, elle était très pro-Israël, État Israël. Et avec les Arabes, il n'y a pas de concession. Voilà.
Est-ce que ça n'allait pas à l'encontre des idées socialistes?
Non, mais ça, c'est déjà de la politique étrangère. Il ne faut pas mélanger socialisme et politique étrangère. Et diriger, je ne sais pas moi, une entrevue avec des Palestiniens, tout ça, je pense qu'elle n'a jamais voulu. Je sais pas, moi je pense qu'on a pas fait assez pour avancer à essayer d'arriver à un accord, avec les Palestiniens surtout.
Mais est-ce qu'à l'époque, personne ne poussait Golda Meir? Personne n'était là pour lui dire « il faut écouter il
non,
faut... »
Non, elle avait une telle présence forte qu'on ne discutait pas. Même Pinchas Sapir, qui était très très fort au sein du parti, toujours il se pliait devant Golda Meir. Golda Meir, tu voyais sur sa figure que, comme on dit en anglais, no time for flowers.
Golda était un personnage hors norme, extraordinaire de force, de détermination, mais aussi de cécité politique. C'est-à-dire, c'est une vraie femme de gauche. C'est-à-dire, c'était une vraie travailliste, socialement très consciente, vous savez, et en même temps, il y avait comme une espèce de trahison de classe, si vous voulez. Et Golda était de cette génération qui voyait l'État d'Israël comme un accomplissement extraordinaire et vivait dans une espèce de... dans le romantisme de l'éthos sioniste, pionnier. Et donc, tous ceux qui s'opposaient à cette vision dans la vie politique étaient considérés comme un attentat et une agression. Le monde de Golda Meir était un monde en noir et blanc.
Noir contre blanc. Ce n'est pas New York, mais Jérusalem. Les Panthères Noirs, groupe de jeunes activistes originaires d'Afrique du Nord, harcèlent la police depuis 2 mois. S'en prenant à un pouvoir dont il considère qu'il est monopolisé par les Juifs venus d'Occident, les Blancs.
Ici, on est des Noirs. On travaille, regardez comme je suis. Encore au Maroc, j'étais honoré. On me disait, sale Juif, au moins je l'acceptais que j'étais Juif. Mais ici, on me dit, sale Marocain, c'est plus encore. Et les Russes, là, qui viennent de venir, ils reçoivent de beaux appartements. Et nous, on reste toujours dans la baraque, là-bas.
Août 1971, manifestation du mouvement des Panthères Noirs à Jérusalem. Le slogan, qu'avez-vous fait de la dignité des Séfarades ?
Mais Israël est peut-être devenu une société normale où les riches s'enrichissent tandis que les pauvres font des enfants.
Mais est-ce que quelque part Golda Meir n'est pas passé du devoir, ce que vous décriviez tout au long de sa vie, une femme de devoir, hein, une femme de pouvoir qui va quelque part recevoir ce genre de mouvement avec peut-être un peu de condescendance.
C'était du mépris, oui. Ces gens-là ne sont pas dans le même siècle. Il a dit, ils ne sont pas gentils. Ils ne sont pas gentils. C'est-à-dire qu'elle n'a rien compris à ça non plus. Pour elle, le sionisme était là pour embrasser tout le monde. Tout le monde devait participer d'enthousiasme à l'entreprise d'édification de la société juive en Israël. Et ces gens-là, ils méritent le mépris. C'était ça surtout. Dans ce moment-là, elle a manqué complètement de sensibilité et même de bon sens politique. Vous ne vous comportez pas comme ça. Elle aurait dû réfléchir un peu. Mais ce n'était pas une femme de réflexion, c'était une femme d'action. Et cette révolte des jeunes défavorisés n'entrait pas du tout dans son chemin intellectuel. Et nous l'avons payé, là encore, très très cher. Les travaillistes l'ont payé par la perte du pouvoir en 1977, puisque l'arrivée du coup de pouvoir est la revanche pour beaucoup des juifs orientaux, n'est-ce pas, contre l'establishment travailliste ashkénaze, et on le paye comme société jusqu'à aujourd'hui.
J'avais un ami, il s'appelait Avrer, qui était chef de département culture de la Histadrout. Je suis allé donc en Israël.
Marek Alter, écrivain.
Et là, il y avait Golda Meir, une femme forte, toujours avec une cigarette. Mais dans le regard, il y avait la malice. Ça veut dire quelqu'un qui essaie de vous saisir, de vous capter. Et à un moment donné, elle me regarde et elle s'est mise à me parler en yiddish. Le yiddish, c'est une langue particulière, c'est une langue fraternelle. J'ai vu que j'ai commencé à l'intéresser. Il s'est créé un rapport, pas politique, mais familial, sentimental, émotionnel. Très vite, elle a remplacé cette grand-mère que je n'ai jamais connue, parce que la mienne est morte à Auschwitz. Elle me disait parfois « Mein Kind, mon enfant, écoute-moi mon enfant ». Et il y avait des crises entre nous, parce que quand je lui proposais des rencontres, des initiatives pour la paix, elle était plutôt méfiante. Et elle se faisait montrer les listes de soldats qui sont morts à la frontière, dans les Golan ou dans les Negev, ou qui ont sauté sur une mine, etc. Elle voulait les graver dans sa mémoire comme si c'était ses enfants. Elle se sentait responsable pour chaque vie. Mais cette responsabilité la rendait aussi méfiante. Et le moment le plus important dans notre relation, c'était avant le septembre noir, avant que le roi Hossein de Jordanie a commencé à massacrer les Palestiniens. Il avait peur qu'ils prennent le pouvoir. À l'époque, Arafat était en Jordanie.
Yasser Arafat était en exil et c'était un peu l'ennemi public des Israéliens.
Voilà, c'était l'ennemi public numéro un. Et un des collaborateurs de Ben Bella, il m'a dit, tiens, J'ai parlé de toi avec Arafat. Il est prêt de te recevoir.
Vous dites OK.
Alors j'ai dit bien sûr, il n'y a pas de problème. Ben, oui. Et je téléphone à Golda et je dis, Golda, il faut que je te voie d'urgence. Donc j'arrive, je rentre chez Golda. Et ça, c'est très important. Elle avait un grand bureau, mais vide. Elle avait une théorie comme quoi un homme ou une femme politique, si elle veut être efficace, elle doit avoir la connaissance de tous les problèmes de l'État dans la tête.
Pas de dossier.
Pas de dossier. Si on a besoin des notes, des fiches, il faut prendre sa retraite. Et elle était là, un peu comme cette statuette antique. Hein. Et il me dit, qu'est-ce qui t'amène ? Je lui ai dit, Golda, demain, je vais en Jordanie où je vois Arafat. Je voulais te prévenir. Il dit, quoi ? Tu vas voir serrer la main d'un homme qui a sur sa main plein de sang d'enfants juifs ? Alors je dis, Golda, c'est une question de conscience. Si notre rencontre peut éviter la mort de quelques enfants juifs ou palestiniens, est-ce que ça ne vaut pas la peine d'essayer ? Et là, elle a cessé de me parler. Et pour moi, c'est la pire des choses. Je n'existais plus pour elle. C'était un choc pour moi. C'est ma grand-mère qui ne voulait plus me parler. Ma petite grand-mère, ma bouberlée. Alors au bout de je ne sais pas combien de temps, je lui ai dit « Shalom », elle ne m'a pas répondu, je suis parti. J'étais très malheureux. Je doutais, bien sûr. À 6 heures du matin, le téléphone sonne. Je prends le téléphone, un peu endormi. J'entends la voix de Golda. Elle m'a dit un seul mot, « L'air, vas-y ». Et je suis parti voir Arafat avec la bénédiction de Golda Meir.
Donc à ce moment-là, votre ami, Yasser, votre nouvel ami Yasser Arafat, est-ce qu'il semble prêt à la paix et est-ce que Golda Meir, elle aussi, semble prête à serrer la main des Palestiniens ?
On était encore loin de ça. On était loin.
Dans cette dualité, socialisme, sionisme, il est devenu de plus en plus sioniste, des nationalistes, de moins en moins socialistes. Pour une part, à cause de la situation du pays, c'était les impératifs de la lutte en quelque sorte, mais aussi par une espèce de lassitude idéologique, je suppose. Et un jour, j'étais là d'ailleurs à cette réunion, un jeune lui a demandé, quand tu penses à tes idéaux de jeunesse, Golda, comment tu vis cela ? Et elle a répondu par une pirouette, elle dit « Je n'ai pas vraiment le temps d'y penser, je suis trop occupé à parler, à répondre au téléphone. »
Octobre 1973, soit 40 ans après la création du Parti des Travailleurs de la Terre, celui de Golda Meir. Golda Meir s'adresse aux citoyens d'Israël. Et elle annonce la guerre avec la Syrie et l'Égypte. Les chars syriens se dirigent vers le plateau du Golan. C'est le début de la guerre de Kippour.
Et il n'était pas question d'accepter la moindre concession, ce qui l'amenait à être l'une des responsables majeurs de la guerre de Kippour, qu'elle aurait pu éviter. Qu'elle avait pu éviter. Une guerre qui a été catastrophique, qu'on a gagné in extremis, à la force du poignet, mais qu'on aurait pu aussi bien perdre. C'était, on est passé très près de la catastrophe. Mais une fois que la guerre a commencé, sa force de caractère, c'était un roc, Golda. Ça lui a permis de conduire la guerre, alors que les hommes autour d'elle, y compris des héros, je sais pas, comme Dayan et d'autres, se sont psychologiquement effondrés. Elle a tenu bon. Et c'est elle qui a conduit politiquement, c'est elle qui a conduit le pays à la victoire. Et Golda, c'était cela aussi.
finalement, c'est pas seulement la guerre elle-même, c'est aussi une époque de changement de génération. L'après-guerre de Kippour, c'est une période qui n'est pas très drôle dans l'histoire d'Israël. C'est une époque où il y a beaucoup de sentiments négatifs qui s'expriment dans la littérature, dans le cinéma. Il y a une espèce de mauvaise conscience, il y a une espèce d'idée qu'on a oublié un petit peu pourquoi on est ici. Et Golda Meir, elle appartient encore à l'époque d'avant, à l'époque de ceux qui ont fondé le pays. Et voilà, elle illustre elle-même ce décalage grandissant dans la société israélienne.
Face to face, between us and between you, so that even an old lady like I am will live to see the day.
Après la guerre de Kippour et sous la pression des manifestations, Golda Meir démissionne en avril 1974. Elle se retire de la vie politique, mais Golda Meir réapparaît en 1977 pour accueillir le président égyptien Sadat. Il est venu en Israël pour dessiner une paix juste et durable. Et Golda Meir lui souffle « Ce n'est pas parce que je suis une vieille dame que je ne peux pas espérer voir la paix de mon vivant. » Ce sera son adversaire politique du Likoud qui la signera. Golda Meir meurt quelques mois plus tard, à 80 ans. C'était toute une vie, Golda Meir, avec Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, auteur de Confession d'un bon à rien, Claude Gartner, ancien secrétaire au Parti travailliste de Tel Aviv, Claude-Catherine Kejman, auteur de Golda Meir, Une vie pour Israël, Yana Grinchpoun, maître de conférences en sciences du langage à Paris 3 et auteur de La fabrique des discours propagandistes contemporains, Pierre Lursa, éditeur et traducteur de La maison de mon père, souvenirs de jeunesse, aux éditions L'éléphant, Marek Alter, écrivain, et Céline Nassib, auteur de Un amant en Palestine, aux éditions Robert Laffont, avec la voix et les chants yiddish de Susanna Marconi. Documentation Radio France, Annelise Signoret, archives INA. Un grand merci à Nicole, Daniel, Yaël et Shira. Prise de son, Sandrine Malon et Éric Boisset. Mixage, Xavier Lévesque. Un documentaire d'Élodie Maillot, réalisé par David Jacoboviez. Coordination, Anaïs Kien, attachée d'émission, Sylvia Favre.